Marcel Duchamp et ses contemporains.
Dès l'instant qu'un monsieur ne fait pas comme les autres, il est dandy. Ce n'est pas seulement faire un tableau, c'était faire un geste dans la vie qui était aussi esthétique que le tableau. Et les choses qui m'intéressaient, c'est d'introduire l'humour dans mes productions, n'est-ce pas ? Et c'était un humour qui n'était pas un humour pour rire seulement. C'était même pas un humour noir non plus. C'est vraiment un humour qui ajoutait quelque chose de sérieux.
C'est sans doute l'artiste le plus présent sur la toile en ce début du XXIe siècle. Et André Breton le considérait comme l'homme le plus intelligent du siècle précédent. Il a élaboré de nouvelles lois de la représentation à partir des choses contemporaines. Au lieu d'un feu de bois à l'ancienne, observe-t-il, on peut contempler une roue de bicyclette dont la fourche serait fichée sur un tabouret de cuisine. Eh bien, quand elle tourne, elle multiplie les dimensions, mieux que les techniques du cubisme que j'ai utilisées pour tenter de mettre en mouvement un nu descendant l'escalier. Ce fameux nu descendant l'escalier, c'était en 1912, date clé. Nous pouvons aujourd'hui reconstituer de mémoire cet étonnant atelier du XXe siècle naissant où de nombreux pionniers sont tous animés d'une même conviction. La peinture, c'est autre chose que des couleurs à l'huile sur une toile. C'est un contenu intérieur. En 1912, Kandinsky à Munich publie son Cavalier bleu, Picasso en France pratique les papiers collés, et tous deux continueront à peindre avec un débit ininterrompu, sans répétition ni faiblesse. Duchamp, lui, passera la ligne, sans esprit de retour. L'art est mort, place à l'artifice.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Roland Recht, bonjour.
Bonjour.
Il éclaterait d'un rire sarcastique, Duchamp, en vous voyant invité à une émission à lui consacrée. Vous êtes président, en titre provisoire, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
On a demandé à Duchamp s'il entrerait un jour à l'Institut de France. Il a crié très fort, jamais, jamais. Voilà.
Nous avons un défi commun avec Jacques Sigal, tous les jours un professeur du Collège de France. On n'y arrivera pas, mais hier et aujourd'hui un professeur du Collège de France. Alors vous y avez longtemps enseigné l'histoire de l'art médiéval et moderne, même pas contemporain, même pas la fin de l'histoire de l'art. Et vous ouvrez le colloque du Collège de France de la rentrée, le 16 et le 17 octobre, consacré aux aventures de la pensée, de l'art, de la science au XXe siècle par une réflexion sur l'atelier du XXe siècle. On a fixé la date de 1912 comme étant celle de notre point de vue panoramique. Je dis panoramique parce qu'il n'y a pas de frontières, il y a une nouvelle atmosphère, l'atmosphère ne se rit des frontières. Et si on va à Munich pour commencer, Kandinsky, qui est un Russe qui vit en Allemagne, dit « l'humanité n'est faite que de frères ». Et c'est le moment où il a, dit-on, contribuer à inventer l'abstraction.
Oui, tout à fait. Et c'est ce que dit l'histoire de l'art, je pense avec raison, bien qu'il ne soit pas le seul. Et je crois qu'il faut tout de suite le préciser, il y a d'autres artistes qui, au même moment, font des tentatives vers l'abstraction. On citera simplement Kupka et Larionov et évidemment Robert Delaunay. Alors, en ce qui concerne Kandinsky, il faut peut-être juste donner quelques indications sur le milieu intellectuel et ses références pour comprendre, et alors je crois qu'on comprend très aisément ce que c'est pour lui que l'abstraction. Il est un fervent connaisseur et amateur d'icônes, ce qui est très important dans la formation de ce peintre d'origine russe. Et la couleur des icônes va jouer un rôle, et même le sens de l'icône, ce qui est ce seuil entre le visible et l'invisible, va être considéré par Kandinsky comme peut-être un modèle du passage vers la vie intérieure. Et pour lui, l'abstraction, c'est simplement que chaque artiste qui peint d'une manière abstraite révèle à travers les couleurs et les formes sa vie intérieure. C'est une plongée dans la vie intérieure. Alors évidemment, tout cela est aussi un petit peu accompagné de parascience, de paranormalité. Il était très intéressé par les théories de Rudolf Steiner, etc., etc. Mais enfin,
le contenu intérieur, voilà, meut l'œuvre.
Voilà, c'est ça. Et alors, on voit cela visuellement, puisque nous sommes à la radio, c'est un petit peu gênant pour cette raison, encore que je trouve que la radio pour cela est peut-être plus évocatrice que la télévision, c'est que quand on voit des aquarelles ou des peintures des alentours de 1910-1911, on voit cette tentative chez Kandinsky tout en représentant encore certaines formes, un cavalier par exemple, cette forme en même temps se dissout dans le chromatisme de la toile et devient quasiment inidentifiable. Et là, nous sommes au début de quelque chose qui va se transformer de plus en plus en un langage abstrait pur.
Nous sommes au début. 1912, Duchamp va aller à Munich. 1912, Picasso fait la connaissance des œuvres de Kandinsky, même s'il n'y aura pas vraiment de rencontre entre eux. Picasso qui est à Paris. Alors allons à Paris maintenant. Et nous sommes dans le quartier de Montparnasse. C'est là que Picasso est durablement installé. Voici le témoignage enregistré, le concernant sur son installation Rue Schoelcher et Boulevard Raspail, de Zadkine, Léopold Lévy, puis son marchand Canneveller.
Picasso, qu'on connaissait encore presque pas, vient de déménager de la voir et qui est venu s'installer à Montparnasse. Il a trouvé un appartement atelier rue Schoelcher.
C'était une sorte de petit hôtel, plutôt moderne, et l'atelier se trouvait avec une sorte de balcon circulaire, et le tout s'ouvrait sur le cimetière Montparnasse, qui était de l'autre côté de la rue.
Il avait un mur du cimetière de Montparnasse. Je crois qu'il n'avait pas besoin de paysage. Le paysage était dans sa tête.
Dès 1903, époque à laquelle je l'ai connu, nous avons entraîné très aisément Picasso à la Clôture des Lilas. Il n'y venait pas très régulièrement, mais il y venait avec plaisir. Et on a retrouvé, après, Picasso, avec encore une figure très jeune, Picasso angélique, à mèche, sous une casquette anglaise, à la terrasse de la Rotonde.
Il a été, évidemment, enfin, l'hôte de la coupole, comme tout le monde, mais au fond, non. Il a été Montmartre III, et puis ensuite, plus rien.
On ne pense jamais à Picasso à Montparnasse, depuis qu'on le suit de Cannes à Valoris et de Valoris à Vaugirard. Mais il était aussi de Montparnasse.
C'était l'époque du cubisme synthétique.
Le bouillonnement de l'atelier du XXe siècle, où nous situerons tout à l'heure Duchamp, Kandinsky, invente et pas seul. L'abstraction, Boulevard Raspail, Picasso invente, il n'a pas été le seul. Les papiers collés, Roland Recht.
Alors, il ne les invente pas vraiment, il faut rendre justice à Braque. C'est visiblement Braque qui a été le premier à les pratiquer, mais sans aucun doute, Picasso a été celui qui a poussé le plus loin l'expérimentation sur ces fameux papiers collés. Et ces papiers collés connaissent leur période d'intense production en novembre-décembre 1912.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit tout simplement d'introduire dans un dessin ou dans une peinture cubiste qu'il peignait à ce moment-là, un morceau de... Alors ça peut être du papier peint, ça peut être un morceau de journal, il y a beaucoup de fragments de pages de journaux, de papier de couleur ou de papier imprimé, encore une fois.
De pain d'épices, de lino.
De lino.
Mais si, ça s'est
lino,
fait.
Exactement.
Un paquet de tabac, enfin les choses ordinaires.
Les choses ordinaires qu'il colle dans cette surface peinte de forme cubiste, ce qui rompt évidemment complètement l'atmosphère et surtout l'espace de la toile cubiste, puisque là on retrouve le plan. Alors que le cubisme est quand même une recherche de mouvement des corps ou des objets à l'intérieur de la toile. Et donc ces papiers collés vont vraiment être pratiqués d'une manière très intense. On sait aujourd'hui qu'il travaillait beaucoup à partir des journaux qu'il lisait quotidiennement, le matin et le journal en particulier. Et il les découpait et il faisait des constructions à l'aide des journaux, mais aussi à l'aide de morceaux de papier blanc cirusé, avec lesquels il faisait de véritables installations sur le mur. Par exemple, ce fameux joueur de guitare qu'on connaît, parce qu'il a photographié.
Fameux joueur de guitare, expliquez en quoi c'est déjà pré-installation. Il y a deux bras avec des papiers collés, et un jour, il colle la vraie guitare dans les bras.
Voilà, exactement. Il part de la surface de papier sur laquelle est représenté le joueur, et deux bras en papier s'avancent dans l'espace et il y met cet objet réel qui est la guitare. On a déjà là une conception qui est à la fois entre la peinture et la sculpture, qui n'est ni l'une ni l'autre, et qui va faire de Picasso un des grands novateurs de cette époque.
Et le jeune Duchamp, alors lui, il a 25 ans à peu près, en 1912, il appartient à une famille incroyable. C'est les notaires dont on parle beaucoup aujourd'hui, peuvent donner naissance à... Un nombre d'artistes incalculable. Là, c'est un tabellion du pays de Madame Bovary. Sur 6 enfants, il y en a 3 qui sont des grands artistes.
Tout à fait. Hein? Il y a, il faut le rappeler, il y a Jacques Villon, le peintre, et puis il y a évidemment Raymond Duchamp-Villon, qui est devenu sculpteur, et qui sont les aînés de Marcel Duchamp. C'est pas négligeable, parce que je pense que dans la tribu familiale, il estimait avoir une place qui ne pouvait plus rivaliser avec ses aînés, qu'il estimait d'ailleurs beaucoup, et c'est peut-être une des raisons qui explique son échappée hors de la peinture.
Mais l'aîné de 15 ans, Jacques, est un petit peu dur, il regarde de surplomb, même très tard dans cet enregistrement de 61 qui n'a jamais été diffusé, le petit cadet.
Eh bien, en 1912, nous étions un groupe important qui s'était allié au cubisme. Il y avait mon frère Marcel, il y avait Glaine, il y avait Médinger, il y avait Léger, Picabia aussi. Enfin, il y avait tout un groupe agissant. Picabia, qui avait des idées très avancées, toujours, il avait entraîné Marcel Duchamp, mon frère. Il avait entraîné d'autres plus jeunes aussi. Et si bien que le mardi, nous nous réunissions à la closerie des Lilas. À la closerie des Lilas, Picabia, mon frère, venait aussi. Ils étaient plus jeunes que nous tous, alors ils avaient plus de volonté de démolir. Ils avaient la manie de la démolition.
Alors Villon a-t-il inventé le premier étage de la closerie des Lilas? Il n'a pas inventé cette tentative radicale de radicalité qui anime toujours son jeune frère. Mais avant démolition, dernière tentative, peut-être l'avant ou la dernière œuvre, 1912, je citais cette œuvre dans le chapeau, le nu descendant l'escalier. Alors là, je compte sur vos talents pour...
Non, ce n'est pas... Ce n'est
dans
pas...
une radio qui n'est pas visuelle encore, oui, évoquer le nu devant l'escalier.
Alors,
descendant l'escalier.
Le nu descendant l'escalier, c'est une toile qui nous montre un personnage, je dirais feuilleté. Il y a des espèces de lamelles de couleurs qui se superposent et qui font que le personnage, effectivement, donne l'impression de ne pas être figé, de ne pas être fixe.
C'est une décomposition du mouvement.
C'est une décomposition du mouvement. Mais évidemment, comme Duchamp le savait très bien, comme il le disait, on ne peut pas représenter le mouvement. On ne peut représenter que des choses immobiles. Donc, pour représenter le mouvement, il fallait cette décomposition qu'il avait en fait trouvée dans les chronophotographies de Marais. Qui a fait des choses comme cela, le physiologiste, professeur au Collège de France,
j'allais vous le dire,
qui avait fait des expériences tout à fait passionnantes sur le mouvement décomposé par la photographie. Eh bien, il s'en est servi et il a, on peut le dire maintenant à propos de ce tableau, Duchamp a toujours été absolument fasciné par les questions liées au mouvement et liées au temps, la représentation du temps.
Donc c'est pratiquement la dernière œuvre.
C'est pas vraiment la dernière, il en fera encore, il peindra encore après la Première Guerre mondiale, mais enfin c'est la dernière grande œuvre. C'est surtout l'œuvre qu'il a rendue célèbre aux États-Unis, dans la grande exposition de New York qui s'appelait l'Armory Show en 1913, où cette œuvre a été exposée, a connu un très grand succès, après l'échec du Salon des Indépendants à Paris, dont parlait son frère à l'instant, Salon des Indépendants, où il y avait justement Glaise et Metzinger et les autres, et Glaise a estimé que ce tableau ne devait pas être montré dans cette exposition.
Nous continuons de visiter l'atelier du siècle, c'est le titre de votre communication au colloque de rentrée du Collège de France. Qu'est-ce qui se passe en 1913, 14, 15, maintenant? Voici, dans un film de Jean-Marie Drault, à lui consacré en 1964, Marcel Duchamp lui-même.
Art ou anti-art? Ça a été ma question à mon retour de Munich en 1912, quand j'ai dû prendre les décisions de vraiment ce qu'on peut appeler abandonner la peinture pure ou la peinture pour elle-même et introduire des éléments très divers et très étrangers à la peinture, mais que pour moi était la seule façon de sortir d'une ornière picturale, d'une ornière de peinture, de couleur. Et alors je me rappelle qu'à un voyage à Rouen, j'ai aperçu dans une vitrine une broyeuse de chocolat chez un chocolatier qui m'a beaucoup plu, dont j'ai fait un croquis. Et ensuite, avec l'idée de la dessiner en parfaite perspective, ce qui m'a plu beaucoup pour éviter cette espèce de choses de la main facile qui jette n'importe quoi sur une toile et devient un tableau.
Alors élaborer de nouveaux rapports avec les choses, c'est ce que tentent les grands artistes à chaque période. lui, il va repérer les choses de la vie contemporaine.
Oui.
La broyeuse de chocolat.
Et vous avez entendu que son discours est celui de quelqu'un qui tend vers l'artisanat. Il veut reproduire les choses avec le soin, le travail, le labeur, la transpiration que l'artisan a lorsqu'il fait un travail manuel. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça nous explique son attirance vers les objets. Au fond, les objets sont pour lui très éloquents par eux-mêmes et il n'est pas forcément nécessaire, comme il dit à l'instant, de les représenter d'une manière fougueuse et avec une maestria de grands artistes.
Je reviens toujours sur mon thème récurrent, l'avant-dernière, la dernière œuvre. Alors, la dernière œuvre, c'est le Grand Vert, non ? Commencé en 1915, oui. Alors, il va passer réformé de France aux États-Unis pendant la guerre. Alors, le Grand Vert, là, je compte sur vos talents pour décrire l'indescriptible.
Oui. Le Grand Vert est en effet commencé en 15 à New York. L'œuvre restera là-bas. Et en 23, il va y retourner en disant j'abandonne cette œuvre, ça ne m'intéresse plus. C'est vraiment un détachement complet par rapport à ses propres productions. Alors, le Grand Vert, c'est quoi ? Le Grand Vert, c'est d'abord une tentative de mettre ensemble le résultat de toutes les spéculations, et j'emploie le mot à dessein, parce que ce sont à la fois des spéculations tout à fait abstraites, mathématiques, perspectivistes, etc., et en même temps, spéculations dans le sens où c'est tout le sens de l'œuvre d'art qu'il est pour lui aussi à mettre en cause et à réinventer. Et c'est le Grand Vert. Il va y représenter des formes qui sont extrêmement énigmatiques. Simplement, il faut savoir que le haut représente la mariée et que le bas représente les célibataires qui convoitent la mariée. Et la thématique elle-même paraît plutôt du domaine de l'érotisme, d'ailleurs qui reparaît à plusieurs reprises chez Duchamp. Mais il s'agit en réalité d'un tableau, appelons-le comme ça, ce Grand Vert, d'un tableau qui, par sa transparence même, ne permet absolument pas de fixer les limites de ce qui est l'espace en trois dimensions. Et le Grand Vert, je crois, est par définition une œuvre indescriptible. C'est une des rares œuvres de l'histoire de l'art qui soit une œuvre totalement indescriptible.
Pas mal quand même, Roland Recht. Et le Grand Vert qu'on peut aller voir à l'exposition du Centre Georges Pompidou, ne vous y trompez pas, ce qui est présenté, je crois, à l'exposition du Centre Pompidou, c'est une réplique qui a été faite en 2 ans.
Il a fait 2 répliques, hein, oui.
Avec les soins d'un grand artiste scandinave dont il était proche. Alors, aux États-Unis, où il travaille à cette époque, il retrouve Picabia. Il y a souvent eu des rapports entre Picabia et Marcel Duchamp, et puis aussi entre Marcel Duchamp et Satie. Relâche, c'est le titre d'un ballet qui plus tard les réunira. Ici l'Orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson.
Pas de maison de campagne, pas de femme et pas d'enfant surtout. J'ai pris une femme à la fin quand même. Et j'en suis très content, d'ailleurs c'est très commun. Je ne savais pas ce que c'était, j'étais toujours plus ou moins célibataire dans ma vie. Et vraiment ça c'est un côté délicieux que je vous recommande.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Marcel Duchamp et ses contemporains, avec Roland Recht. On ne va pas parler de Duchamp et de ses femmes, qu'il choisissait généralement riches et oisives, qu'il rejetait aussi très facilement. Quand même, à partir du moment où nous sommes, Roland Recht, le travail, l'œuvre, je ne sais comment dire, de Duchamp sont intimement liés à la biographie.
Oui, absolument. Ils sont liés à la biographie, tout simplement parce que ce qu'il fait, sa vie quotidienne, est ponctuée par des trouvailles, des inventions, des facéties parfois, qu'il ne prend d'ailleurs pas du tout au sérieux. Ainsi le porte-bouteille ou la route bicyclette, il dit c'est une distraction, c'était une distraction. Et personne à ce moment-là n'avait l'idée de dire c'est un scandale, c'était dans son atelier et point, personne ne le voyait que c'est quelques rares.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'atelier? Il n'y a plus de toile, il n'y a plus de chevalet.
Il n'y a pas de toile, il y a des objets.
La route bicyclette, elle est fichée sur le tabouret de cuisine et il regarde le mouvement.
Oui, il y a le grand verre quand même.
Il y a un grand verre.
À New York, il y a le grand verre. Il regardait peut-être pas aussi souvent le mouvement qu'il nous l'a raconté, parce qu'il était quand même mis en scène sa propre existence. Mais effectivement, le mouvement de la route bicyclette, ces rayons qui tournent, c'est quelque chose qui va l'obséder pendant toute sa vie et qu'on va retrouver plus tard dans des œuvres, le rotor, etc. Bon, donc ça, c'est en effet quelque chose qui l'intéresse. Mais son atelier, il faut bien s'imaginer que son atelier doit être vide de ce qu'on imagine traditionnellement dans un atelier d'artiste. Et nous sommes bien là, chez un artiste qui invente, j'allais dire, l'art conceptuel, c'est-à-dire où c'est la pensée, c'est le langage, qui ont autant d'importance et de poids dans sa progression biographique, personnelle, que les œuvres d'art. Et il y a un silence très long.
Et souvent, quand il est importuné par une visite, il dit « Permettez-moi, je rejoins ma partie d'échecs ».
Oui, c'est ça.
Il y a
le jeu d'échecs est évidemment une chose essentielle dans ce long silence. Donc, il va en gros, de 1923 à 1953. Il participe à des champions. Il fait partie de l'équipe de France. Et il voyage en Europe. Il est un très grand joueur d'échecs. Et bien entendu, le jeu d'échecs est à mettre en relation avec sa pratique de l'art. C'est une stratégie, c'est un jeu de stratège. Et Duchamp était quand même, malgré ses propos, un grand stratège.
Et il savait faire la propagande de ses trouvailles. Alors, on va faire l'énumération de tel ou tel de ses trouvailles. Moi, j'aime beaucoup le porte-manteau qui est posé au sol, de telle sorte qu'on risque de buter sur lui. On connaît l'urinoir qui est déplacé et devient une fontaine, ou bien le flacon de sérum physiologique vidé et qui s'appelle Air de Paris.
C'est très difficile de choisir quelque chose qui soit absolument plat comme délectation esthétique, comprenez-vous? C'était là le problème. Et alors, pour éviter justement la répétition, je m'étais fait une règle et maintenant je n'en fais presque plus à cause de ça, parce que tout le monde aimerait ça. Même ce brave, comment ça s'appelle, une chose à porte-bouteille, qui était en fer, le porte-bouteille du bazar de l'Hôtel de Ville, que j'avais acheté là d'ailleurs. Tout le monde l'adore aujourd'hui, dans tous les livres de sculpture, il est marqué comme une sculpture qu'on doit admirer.
Comment s'appelle la cage à sucre?
La cage à sucre s'appelle « Pourquoi ne pas éternuer ?» Pourquoi ne pas éternuer? Évidemment, ce titre me semble bizarre parce qu'il n'y a aucun rapport vraiment entre les morceaux de sucre et un éternuement. De plus, ces morceaux de sucre ne sont pas en sucre, ils sont en marbre. Donc c'est déjà une autre chose, puisque quand on soulève la cage, on est tout surpris par la différence de poids qu'on attendait et qu'on trouve. Il y a aussi un thermomètre dans le coin qui est supposé donner la température des morceaux de marbre pour prouver bien que ce n'est pas du sucre, etc., etc. Voici le genre de choses qui m'intéressaient dans cette histoire-là.
Pas de ces objets dans l'exposition du Centre Georges Pompidou qui restitue l'œuvre d'avant du peintre Duchamp. Libération écrit, l'urinoir est absent et ça sent plutôt le bénitier. Pas de ready-made.
Alors, le ready-made, c'est ce qu'il pratique le plus volontiers quand il est aux États-Unis.
Expliquez le sens du mot, peut-être,
oui,
Roland.
Alors, c'est un, par définition, c'est un objet de production courante et d'usage courant qu'il choisit et auquel il assigne un statut spécial, puisqu'il le choisit et puisqu'il le place dans son atelier, généralement sur un socle. Et à partir du deuxième ready-made, c'est-à-dire à partir de la du porte-bouteille, il va même porter une inscription. Mais il ne savait plus lui-même ce qu'il avait écrit, mais enfin, il avait écrit quelque chose. Et ce ready-made se définit comme étant un objet quelconque qui doit surtout être caractérisé par sa totale indifférence visuelle. La notion d'indifférence visuelle, l'absence totale de référence esthétique, l'absence de bon goût, doit caractériser ce genre d'objet qu'il choisissait. Alors, il accorde beaucoup d'importance au lieu, au moment, donc au temps et à l'espace, dans lequel cet objet a été choisi. Et c'est tout ce qui le caractérise, c'est tout ce qui le distingue. C'est évidemment le début d'une très longue généalogie d'objets de ce type et de démarches analogues au XXe siècle.
Alors, les démarches analogues au XXe siècle et au XXIe siècle. Quelle est la postérité de Duchamp? Alors, c'était pas du tout son genre de s'en préoccuper.
Bien, on a quand même un peu l'impression, en définitive, qu'on a commencé avec un peintre et qu'on quitte un philosophe.
Oui, le mot philosophe est très gentil, mais c'est aussi sujet à caution. Les questions d'enseignement, d'école, de disciples ne m'ont jamais intéressé et ne continuent à ne pas m'intéresser. Je suis arrivé à cette conclusion vraiment que, comme disait Brancusi, l'art est une escroquerie d'abord, mais je crois aussi que c'est un mirage en plus. Je crois aux artistes, à l'individu, l'homme, l'artiste, s'agit quoi. Mais l'art est un mirage pour moi. Et c'est tout. L'artiste tant qu'on veut. Et on ne peut pas aider un autre homme, chacun l'individu pour lui, car je ne suis pas du tout de l'avis de la fourmilière qui nous attend dans quelques centaines d'années. Donc je crois encore à l'individu et chacun pour soi, comme dans un naufrage.
Extrait du film de Jean-Marie Drault, auquel nous avons beaucoup emprunté, Roland Recht.
Alors évidemment, le cynisme de Duchamp apparaît ici d'une manière tout à fait amusante en même temps. C'est un homme qui a un humour extraordinaire. Mais je crois vraiment qu'il est représentatif de cette sorte de désenchantement qui gagne l'art dans ces années, dans la deuxième décennie du XXe siècle, où effectivement chacun, comme il dit, chacun pour soi, c'est-à-dire il y a autant de formes et de concepts, de conceptions de l'art qu'il y a d'artistes, ou qu'il y a de personnes, en tout cas, qui se lancent dans une production artistique par un geste. Ça peut être un geste comme le happening, par exemple. Ça peut aussi être une parole. Ça peut être le conceptuel admet tout ça.
On peut faire le parallèle avec la postérité de Picasso. Jean Clair, qui a été conservateur de musée Picasso, qui n'aime pas tant que ça Picasso, dit Duchamp, c'est peut-être plus important que Picasso. Picasso, il a exploré jusqu'au bout, essayé d'inventer dans toutes les formes possibles, sans jamais se répéter, mais la peinture était déjà morte et Duchamp l'avait compris.
Je pense que Picasso a épuisé, encore qu'il serait mort avec 10 ans de plus, il aurait continué, mais il a épuisé tout ce qu'il pouvait susciter chez les autres. Il a été aussi à la fois l'artiste Picasso, il a en même temps été sa propre descendance, ce qui est quand même le propre d'un démiurge.
Alors Jean-Clair dit, il n'y a pas de descendants de Duchamp, c'est tous des bâtards.
Oui, alors ça c'est évidemment une opinion que je ne partage pas. Je pense qu'il peut y avoir, il y a dans la production du XXe siècle un certain nombre de descendants tout à fait dignes de Duchamp, mais qui ont en plus l'honnêteté de se réclamer de Duchamp, c'est-à-dire qu'ils en aucun moment n'essaient de faire penser que ce qu'ils font n'a pas de généalogie, n'a pas d'ancêtre. Mais je pense qu'il y a au cours du XXe siècle un nombre d'artistes non négligeables, aussi bien aux États-Unis qui a été peut-être le premier, la chambre d'écho première.
J'allais dire le lieu de culte.
Absolument,
de Duchamp.
C'est vrai. En même temps,
parce que c'est une figure de gourou et de, de chef d'un culte.
Qui l'a à la fois, qui n'a pas voulu occuper, mais en même temps qu'il occupait malgré lui. Donc,
il meurt après mai 68. Vous pouvez rappeler ce qu'il y a sur sa tombe où il voisine avec son frère Jacques, qualifié lui de peintre et graveur, et avec son frère sculpteur. Qu'est-ce qu'il a fait écrire d'ailleurs?
Ce sont toujours les autres qui m'ont dit ça, c'est très beau. Mais je pense qu'il aurait aussi pu mettre ce qu'il a dit de lui-même, c'est que, au fond, vous savez, j'ai mené une vie de garçon de café.
Oui, mais vous l'enviez parfois, cette vie, oui. Roland Recht. Qu'est-ce qui reste de l'art après Duchamp? Qu'est-ce qu'il reste? Vous êtes spécialiste d'histoire de l'art. De l'histoire de l'art, beaucoup de points d'interrogation. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Zachary Boubli, avec à la technique Ludovic Asselot.